je nous présente Max et Laura, bénévoles au Genepi, et enchantée d'avoir été invitée à Bruit de Tôle, que nous remercions beaucoup. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, le Genepi, une petite présentation s'impose. Alors, Genepi est l'acronyme de Groupement étudiant national d'éducation aux personnes incarcérées. C'est une association œuvrant en faveur du décloisonnement des institutions carcérales par la circulation des savoirs entre les personnes incarcérées, le public et ses bénévoles. On participe ainsi au décloisonnement de la prison en établissant un lien entre les détenus et le monde extérieur. Bon, comment s'y prend-on ? Donc, les étudiants du Genepi à l'intérieur des murs interviennent en détention de façon hebdomadaire. Donc, ça peut être sous forme de soutien scolaire, d'activités culturelles ou d'activités ponctuelles comme des tournois sportifs, du slam, etc. À l'extérieur, on tend à informer et à sensibiliser le grand public sur la réalité de la prison. On parle de nos expériences en détention, on donne la parole à des acteurs prison-justice, parfois à des détenus, dont on recueille les propos. Bref, on fait en sorte que la société civile ne se désintéresse pas de la prison. Vous nous avez peut-être déjà croisés à l'occasion du festival de printemps, Tôlart, qui organise sur une semaine des événements en rapport avec le milieu pénitentiaire. On aura sûrement l'occasion de vous reparler de cet événement. Pour l'heure, maintenant que la présentation est faite, je laisse la parole à Max qui va nous présenter la chronique.
Bonsoir à tous, Bruit de Tôle, le directeur de Canal Sud. Bonsoir. Alors, cette chronique, qu'est-ce que c'est et cette année, qu'est-ce que ça va être ? Ben, pour l'instant, tout est à définir. C'est une carte blanche sur les mondes de l'enfermement à géométrie variable. Aujourd'hui, on a tablé sur une petite quinzaine de minutes. Ce qui se passera le mois prochain, ce sera peut-être 5 et ce sera peut-être 20, on ne sait pas. Alors, pour la première, on a voulu commencer avec un truc entre guillemets tranquille. C'est toujours pareil, quand on peut parler de tout, on ne sait jamais trop quoi aborder. Alors on a gambergé un peu, puis nous est venue l'idée de parler de bouffe. Ça parle à tout le monde la bouffe, qu'on soit dedans ou qu'on soit dehors, c'est primordial pour le bien-être de chacun. Et puis, c'est un sujet simple à traiter pour commencer la saison, enfin... Ça, c'est ce qu'on pensait, mais c'est un sujet sur lequel on a eu du mal à trouver des informations de base. Parce qu'en fait, la nourriture en tôle, comme le reste, c'est une question d'argent et de volonté. Les premiers mots qu'on a trouvés en commençant les recherches, c'était Sodexo, le prix exorbitant de l'épicerie, ou encore établissement, co-gestion ou gestion déléguée. Alors, qui rogne sur la bouffe pour faire des économies et qui s'en sert pour faire du profit ? Bon, c'est pas très difficile à deviner. Pour le moment, Laura nous a préparé un petit récap sur les établissements à gestion déléguée. On l'écoute.
Alors, comment on en est arrivé là, d'abord ? Donc, à vrai dire, on n'a pas trop le temps de retracer toute l'histoire de la gestion déléguée, du coup on va faire dans les grandes lignes. Donc, déjà, la gestion déléguée, c'est quoi ? C'est confier à un prestataire privé unique l'entretien et les services à la personne. Donc ça répond à la base au problème de surpopulation carcérale. C'est M. Chalandon, donc on se place là en 1987, qui lance cette solution à travers le programme 13 000 places. Donc de son petit nom, Albin Chalandon était garde des Sceaux de Chirac pendant la première cohabitation de 86 à 88. 2 ans pendant lesquels il a eu le temps de réouvrir la brèche de la privatisation des prisons. Il s'est tout simplement inspiré du modèle qu'il avait appliqué quelques années avant, alors qu'il était ministre du Logement et des Équipements, pour redynamiser l'urbanisme et les grands travaux publics.
Il nous avait fait les chalandonnettes hein, quand il était au logement, des petites maisons qui ne duraient pas plus de 10 ans et qui s'écroulaient toutes seules. C'est des chalandonnettes, on disait oui.
Dommage qu'il n'ait pas fait la même pour les prisons qui s'écroulent toutes seules.
Donc du coup, il est parti sur un modèle simple, encourager l'investissement d'acteurs privés. Mais c'est bien sûr, c'est évident pour notre cher Albin, banquier de 1952 à 68 et qui sera ensuite le dirigeant de LF Aquitaine. Mais bon, refermons cette parenthèse. Revenons-en plutôt au programme de gestion déléguée qui découle de la loi 87-432 du 22 juin 1987 relative aux services pénitentiaires. Donc, l'article 2 stipule que les fonctions autres que celles de direction, de greffe et de surveillance peuvent être confiées à des personnes de droit privé ou public. Et tout cela pour recentrer l'administration pénitentiaire sur ses missions régaliennes. Donc, ainsi, 25 prisons ont été construites sur ce modèle. En 2011, 45 établissements pénitentiaires sur 189 sont en gestion déléguée. Donc, deux autres plans ont succédé au précédent, le programme 4000 places sous le ministère de Méhaignerie. En découle la procédure AOT-LOA, qui veut dire autorisation d'occupation temporaire, location avec option d'achat. Donc, c'est en gros l'AP confie à un opérateur privé le financement, la conception, la construction et la responsabilité de l'entretien et de la maintenance des établissements. Donc, sept prisons ont été construites sous ce contrat. Puis, enfin, le programme 13 200 places qui s'achèvera en 2017, ouvrant la voie au contrat PPP, un partenariat public-privé. Donc, c'est un peu le début d'une privation totale des prisons. On en viendrait presque au système américain qui privatise totalement leurs prisons jusqu'à la surveillance. Les Anglais sont bons aussi dans ce domaine. Depuis 1992, toutes les prisons construites sont financées par le secteur privé. Bon, à vrai dire, je me suis un petit peu égarée en parlant de privatisation, mais il était difficile de faire la passe sur ce qui nous pend au nez. Pour en revenir à la gestion déléguée en France, nous sommes actuellement dans la deuxième génération de contrats délégués. La première, donc on se replace dans l'objectif des 13 000 places, pardon, ouvre en 1989 des contrats de 10 ans pour 21 prisons à 4 filiales que sont GESPA, donc filiale de Suez, Dumez, de Vinci Construction, CIGES, donc Sodexo, et GESEP Égide. En 2001, la deuxième génération de gestion déléguée prend forme sur 27 prisons dans le cadre du plan 4000 places. On y retrouve Index Énergie, GESPA et bien sûr Sodexo qui s'occupe entre autres de la nourriture et du cantinage pour les détenus. Donc, je rends donc la parole à Max qui va essayer d'approfondir un peu la gestion déléguée à travers la nourriture.
Alors d'abord, commençons par le commencement, l'élaboration des menus. En établissement à gestion déléguée, les menus sont élaborés toutes les 6 semaines. Ils sont proposés par les prestataires, qui travaillent tous avec les mêmes fiches repas standardisées, puis validés par l'administration pénitentiaire en commission. Cette commission se compose de représentants de l'AP, de délégués des prestataires et parfois des représentants des détenus. Les menus sont dépourvus de choix, hormis celui de ne pas manger de viande, régime qui convient en théorie aux végétariens comme à ceux qui ne mangent pas de porc. Je reviendrai tout à l'heure sur la question du choix. Dans les établissements publics, les menus sont élaborés par DSP, Direction interrégionale des services pénitentiaires, afin d'avoir, je cite, une vision globale des menus. Alors, comment se passe concrètement la préparation et la distribution des repas? Dans un établissement à gestion déléguée, pratiquement tous les repas sont préparés et conditionnés en barquettes individuelles, le plus souvent 2 à 3 jours avant de les servir. Les repas sont alors stockés dans des chambres froides, entre 0 et 3 degrés, avant d'être servis par les auxiliaires des tâches. Ils sont réchauffés soit à l'aide de chariots chauffants lors de la distribution, soit avec des fours en cuisine. Et enfin, on mange en cellule. À savoir qu'il y a quelques cas où la nourriture est préparée et servie dans la foulée, dans les centres pénitentiaires pour mineurs et dans les restaurants des personnels. Logistiquement, rien d'extraordinaire. On conditionne sur place, on met au frais et ensuite on sert. Sauf qu'ils font tout ça sans trop se poser de questions. Des questions essentielles que s'est posé le Conseil national de l'alimentation dans un rapport paru en 2011. Primo, pour établir des menus qui vont satisfaire l'ensemble d'une population, ici la population carcérale, il faut en regarder la démographie, les besoins, ainsi que les situations nutritionnelles. On sait notamment que la durée d'emprisonnement et le type d'établissement ont un impact. En maison d'arrêt, souvent en attente de jugement, avec un turnover important de nos codétenus, il faut se réadapter tous les jours à sa condition d'incarcéré. On n'aura pas les mêmes besoins qu'un détenu en maison pour peine qui, bon an, mal an, arrive à s'établir une routine. Question est également de savoir les activités pratiquées. Qui a un travail, qui fait du sport tous les jours, sans évoquer l'âge et les maladies. Bref, autant de données transversales qui rendent stupide et en théorie complètement impossible de réfléchir en termes de moyenne afin de finalement servir la même chose à tout le monde et à tous les repas. Il y a de la part des détenus un fort rejet de ce qui est servi. D'abord peut-être parce que c'est dégueulasse et que même si on arrive à finir sa barquette, on a encore faim. Mais au-delà de ça, ce qui pousse au rejet, c'est le problème de la confiance. Comment vouloir téter le sein de cette mère qui nous enferme, qui nous bat et qui nous réduit à si peu de choses ? Hormis les quelques détenus qui travaillent au service général et qui participent à la confection des repas, les consommateurs finaux ne voient pas ce qui se passe en cuisine. S'ils ne le voient pas, alors ils l'imaginent et le fantasment. Alors oui, il y a bien des goûteurs de l'administration qui goûtent et valident avant chaque service. Mais qui sont ces gens et comment leur faire confiance ? Les rejets se font au profit de l'épicerie. Si les détenus ont les moyens, ils cantinent des produits de grandes marques, des produits qu'ils connaissaient avant d'entrer, qui sont faits dans des usines bien loin de l'atoll, des trucs rassurants et qui rappellent des souvenirs. Parfois aussi, le cantinage, c'est pour pouvoir cuisiner soi-même, par plaisir, pour se faire plaisir. C'est pouvoir se réapproprier cette démarche et se nourrir, entre guillemets, soi-même. Ça permet également de se préparer des plats plus proches des habitudes alimentaires que l'on avait avant de rentrer. Ou enfin, tout simplement, pour pouvoir partager avec son ou ses co-détenus un moment et une bouffe qui change de l'ordinaire. Parce que se faire à manger soi-même, c'est aussi et surtout avoir le choix de ce qu'on a dans la gamelle. Encore une fois, ça c'est si tu as les moyens. En théorie, le prestataire épicier ne peut pas excéder les 10% de marge et ne pas vendre plus cher que l'hypermarché le plus proche. Pourtant, l'Express a fait une enquête en 2011 sur le coût de la vie en prison. Il en ressort des chiffres qui n'ont rien à voir avec la théorie. Par exemple, dans une prison en Picardie, la bouteille d'eau voit son prix augmenter de 102% par rapport à la supérette la plus proche. En Picardie toujours, la tablette de chocolat prend 129% sur le catalogue de cantine. Et à Saint-Malo, le PQ prend 77%, passant de 22 centimes à 39 centimes le rouleau. Alors faut pas se leurrer, les 10% de marge soi-disant maximum que l'épicier peut se faire sont largement explosés sur beaucoup d'articles et beaucoup de tôles. C'est ça le tout privé. Dans certaines prisons à gestion déléguée, tu travailles pour une entreprise privée qui te paie des clopinettes. La gestion collective est assurée par une autre entreprise privée qui te sert de la bouffe de merde, passez-moi l'expression. Et c'est la même entreprise qui t'arnaque sur les prix de la cantine, sur laquelle tu te rabats pour manger avec un minimum de décence. L'impossibilité de faire des choix participe de ce qui déshumanise. Manger, ce n'est pas juste se nourrir. On devrait avoir autant envie que besoin de manger, par plaisir. Dans les murs, c'est pas vraiment comme ça, parce qu'on n'a pas vraiment le choix de ce qu'on peut manger. C'est donc nourris-toi ou cantine. Et si tu n'as pas les moyens de cantiner, alors c'est nourris-toi ou crève. Pas un seul effort n'est fait. Il s'agit donc d'élargir les choix à plusieurs plats par repas. Et au-delà de la cuisine collective, il faut élargir et aligner les prix à la baisse du catalogue de cantine, histoire de pouvoir, encore une fois, avoir le choix. Enfin, si c'était aussi simple. Parce qu'il y a aussi le problème des normes et des règlements. Par exemple, on trouve dans les catalogues de cantine des poêles et des produits frais, alors que l'établissement interdit de cuisiner en cellule et ne propose pas de matériel de stockage des produits frais. Tu crois avoir le choix, mais en fait, tu l'as dans l'os. Certains établissements autorisent les plaques chauffantes, alors que d'autres tolèrent seulement des produits de chauffe instantanée type Esbit, ces espèces de mini-savons chauffants qui, lorsqu'ils brûlent, dégagent des fumées toxiques, d'autant plus dans un espace aussi peu aéré que celui d'une cellule. Alors, certainement que si on commence à chercher des solutions, la première qui nous viendrait serait la plus simple, à savoir d'arrêter d'enfermer les gens. Bon, on n'en est pas vraiment là. Donc tournons-nous de nouveau vers le Conseil national de l'alimentation, qui conclut son rapport par des recommandations. Je cite la première. L'amélioration de l'alimentation en milieu carcéral passe en premier lieu par une meilleure connaissance et une mesure précise des besoins nutritionnels spécifiques, des pratiques de consommation et des attentes des personnes détenues. Fin de citation. Il s'agirait donc de garantir une alimentation suffisante en quantité et tenant compte des facteurs propres à chaque individu. Niveau de sédentarité, niveau d'activité physique, âge, sexe, état de santé. Dans un même temps, il faut veiller à ce que la qualité de la restauration collective soit de mêmes exigences que celle des autres services publics, comme par exemple les restaurants scolaires ou hospitaliers. Mais pour tout ça, il faut se bouger le train et débloquer des fonds pour mener des études sur trois volets primordiaux pour la bonne remise en place d'un système alimentaire décent, à savoir la mesure des besoins, l'analyse des pratiques et l'évaluation des attentes. Voilà la mission, établir un panel d'établissements représentatifs et déployer des travailleurs du médical, de la diététique et des sciences sociales pour aller fouiner en cuisine et dans les cellules. Voilà un rapport qui a bien dû faire rigoler l'administration pénitentiaire. L'autre recommandation qui paraît sensée mais également difficile à appliquer, est la question d'une meilleure appropriation par les personnes détenues des aliments mis à leur disposition en restauration collective et par la prestation cantine. Je cite « La notion d'appropriation renvoie directement à la faculté concrète pour les personnes détenues de disposer d'un choix de menu dans le cadre de la restauration collective, d'accommoder à leur convenance certains des plats qui leur sont servis par le service de restauration collective, de cuisiner leurs propres plats sous réserve de conditions d'hygiène et de sécurité, de participer au choix des menus et à l'élaboration des repas, de faire des choix éclairés dans leur pratique alimentaire, s'agissant en particulier de l'assaisonnement des plats et de leur achat à la cantine. Matériellement, ça risque d'être compliqué. Pour élaborer ces repas, il faut avoir le matos. Et pour l'instant, il y a plus de problèmes que de solutions. Impossibilité de conserver certains aliments, problème d'ampérage rendant impossible le branchement de plaques chauffantes en cellule, risque d'accident, absence de salle hors cellule pour cuisiner. Et au-delà du matériel, cela nécessite qu'on leur accorde la faculté concrète de disposer d'un choix. Voilà ce qui risque de poser problème. Car s'il est simple de nourrir du bétail en leur donnant à tous le même grain, il est très compliqué dans un processus de déshumanisation du détenu de prendre en même temps en compte les spécificités de chaque individu. Alors, on pourrait continuer longtemps sur la comptine, son offre et ses prix, ainsi que sur la meilleure prise en compte des régimes alimentaires spécifiques dus aux pathologies, à l'âge, aux conditions d'incarcération, etc. La liste est très longue. Nous, on s'arrête ici pour aujourd'hui. C'était la première chronique du Génépi de cette année, et on se retrouve tous les deuxièmes jeudis du mois au sein de Bruttol, que l'on remercie encore une fois de nous avoir fait cette place à leur côté sur les ondes de Canal Sud.
Merci,
merci
à vous.
Beaucoup pour cette chronique.